Chapitre 17. Un voyage à Cornwall. Le garçon vint prévenir mon oncle qu'il y avait à la porte une vieille femme qui demandait à lui parler. « Fais-la entrer, » dit Benjamin, « et sers-lui quelque chose dont elle se rafraîchisse. »« Oui, » répondit le garçon, « mais c'est que la vieille n'est pas ragoûtante du tout. Elle est éraillée et elle pleure des larmes grosses comme mon petit doigt. » « Elle pleure !» s'écria mon oncle. « Et pourquoi, drôle, ne m'as-tu pas dit cela tout de suite ?» Il se hâta de sortir. La vieille femme qui réclamait mon oncle venait en effet de grosses larmes qu'elle essuyait avec un vieux morceau d'indienne rouge. « Qu'avez-vous, ma bonne ?» lui dit Benjamin d'un ton de politesse qui ne prenait pas avec tout le monde. « Et que puis-je pour votre service ?»« Il faut, » dit la vieille, « que vous veniez à Cerbère voir mon fils qui est malade. »« Cerbère, oh, ce village qui est au sommet des monts de Duc, mais c'est à moitié chemin du ciel. »« Bon, c'est égal, je passerai demain chez vous dans la soirée. »« Mais si vous ne venez pas aujourd'hui, » dit la vieille, « demain, c'est le prêtre avec sa croix noire qui viendra, et peut-être est-il déjà trop tard. » « Car mon fils est atteint du charbon. »« Ah, voilà qui est fâcheux pour votre fils et pour moi, mais pour arranger tout le monde, ne pourriez-vous pas vous adresser à mon confrère Arnoux ?»« Je me suis adressé à lui, mais comme il connaît notre misère et qu'il sait qu'il ne sera pas payé de ses visites, il n'a pas voulu se déranger. »« Comment ?» dit mon oncle. « Vous n'avez pas de quoi payer votre médecin ?» Ah, en ce cas, c'est autre chose, cela me regarde. Bon, je ne vous demande que le temps d'aller vider un petit verre que j'ai laissé sur la table et je vous suis. À propos, nous aurons besoin de quinquina. Tenez, voilà un petit écu. Allez chez Perrier en acheter quelques onces. Vous lui direz que je n'ai pas eu le temps de faire l'ordonnance. Un quart d'heure après, mon oncle se hissait, côte à côte avec la vieille, le long de ces pentes incultes et sauvages qui prennent leurs racines dans le faubourg de Bethléem et se terminent par le vaste plateau au fait duquel le hameau de Saint-Bert est perché. De leur côté, les hôtes de M. Minxit partaient dans une charrette attelée de 4 chevaux. Les habitants du faubourg de Beuvron s'étaient mis, leurs chandelles à la main, sur le seuil de leur porte pour les voir passer, et c'était en effet un phénomène plus curieux que celui d'une éclipse. Arthus chantait aussitôt que la lumière, Guirand, Malbrousse en vint en guerre, et le poète Millot, qu'on avait attaché à une ridelle de la voiture, parce qu'il ne paraissait pas très solide, entourait son grand Noël. M. Minxit s'était piqué d'une magnificence extraordinaire. Il donna à ses convives un souper mémorable et dont on parle encore à Cornwall. Heureusement, il avait tellement prodigué les rasades que dès le second service, ses hôtes ne pouvaient plus lever leur verre. Benjamin arriva sur ses entrefaites. Il était harassé de fatigue et d'une humeur à tout massacrer, car son malade avait trépassé entre ses mains et il était tombé 2 fois en route. Mais il n'était chez lui ni chagrin ni contrariété qui tinspiait devant une nappe bien blanche et parée de bouteilles. Il se mit donc à table comme si de rien n'eût été. « Tes amis, lui dit M. Minxit, sont des mazettes. Pour des huissiers, des fabriciens et des maîtres d'école, je les aurais cru plus solides. J'aurais pas la satisfaction de leur offrir du champagne. Tiens, voici Marchecourt qui ne te reconnaît même plus et Guillaume qui présente à Arthus sa tabatière au lieu de son verre. « Oh, que voulez-vous ? » répondit Benjamin. « Tout le monde n'est pas de votre force, M. Minxit. »« Oui, » répliqua le brave homme, flatté du compliment. « Mais qu'allons-nous faire de tous ces poulets mouillés ? Je n'ai pas de lit pour eux tous, et ils sont hors d'état de pouvoir retourner ce soir à Clamcy. »« Parbleu ! Vous voilà bien embarrassé, » dit mon oncle. « Qu'on étende de la paille dans votre grange, et au fur et à mesure qu'ils s'endormiront, » vous les ferez porter sur cette litière. On les couvrira de peur qu'ils ne s'enrhument avec le grand paillasson que vous mettez sur votre couche de petite rave pour la garantir de la gelée. Ma foi, tu as bien raison, dit M. Minxit. Il fit venir deux musiciens commandés par le sergent, et le plan donné par mon oncle fut exécuté dans toute sa teneur. Mio ne tarda pas à s'endormir. Le sergent le prit sur son épaule et l'emporta comme une boîte d'horloge. Le transport de Rapin, de Parlanta et des autres ne présenta pas de sérieuses difficultés. Mais quand on en vint à Artus, on le trouva si pesant qu'il fallut le laisser dormir sur place. Quant à mon oncle, il avait vidé sa dernière rasade de champagne. Il se dirigea à son tour vers la grange et leur souhaita le bonsoir. Le lendemain matin, quand les hôtes de M. Minxit se levèrent, ils ressemblaient à des pains de sucre qu'on tire de leur caisse. Il fallait mettre tous les domestiques du logis en réquisition pour les débarrasser de la paille dont ils s'étaient enveloppés. Après avoir déjeuné avec le second service qu'ils avaient laissé intact la veille, ils partirent au grand trot de leurs quatre chevaux. Ils fussent arrivés fort heureusement à Clamcy sans un petit accident qui leur survint en route. La voiture, surexcitée par le fouet, versa dans un des 1 000 cloaques dont le chemin était alors semé, et ils tombèrent tous pêle-mêle dans la boue. Le poète Millot, qui était toujours malheureux, eut la maladresse de se trouver sous Artus. Benjamin, heureusement, pour son habit, était resté à Courvol. M. Maxit avait à dîner ce jour-là tous les notables du pays et entre autres deux gentilshommes. L'un de ces illustres convives était M. de Pontcassé, mousquetaire rouge. L'autre était un mousquetaire de la même couleur, ami de M. de Pontcassé, et que celui-ci avait invité à passer quelques semaines dans son reste de castel. Or, M. de Pontcassé, dans la confidence duquel nous avons déjà mis nos lecteurs, n'aurait pas été fâché de réparer les avaries qu'avait éprouvées sa fortune avec celle de M. Minxit, et il flairait Arabelle, bien qu'il dît souvent que c'était un insecte né de l'urine. Celle-ci s'était laissée piper par l'extravagance de ses belles manières. Elle le trouvait bien plus beau avec ses plumes fanées et plus aimable avec son fatras de cour que mon oncle avec son esprit sans prétention et son habit rouge. Mais M. Minxit, qui était un homme non seulement d'esprit mais de bon sens, n'était pas de cet avis. M. de Pontcassé eût été colonel qui ne lui eût point donné sa fille. Il avait retenu Benjamin à dîner afin qu'Arabelle pût établir entre ses deux adorateurs une comparaison qu'il croyait le devoir paraître à l'avantage du mousquetaire, et aussi parce qu'il comptait sur mon oncle pour effacer le clinquant des deux gentilshommes et modifier leur orgueil. Benjamin, en attendant le dîner, alla faire un tour dans le village. En sortant de chez M. Minxit, il avisa une paire d'officiers qui tenaient le haut de la rue et ne se seraient pas dérangés pour une malle-poste, ce dont les paysans étaient fort ébahis. Mon oncle n'était pas homme à se préoccuper de si peu. Cependant, en passant près d'eux, il ouït très distinctement l'un de ces hobereaux qui disait à son compagnon: « Tiens, voici le drôle qui prétend épouser Mademoiselle Mixit. » Mon oncle eut un instant envie de leur demander pourquoi il le trouvait si drôle. Mais il réfléchit qu'il serait peu séant, quoiqu'il se couchât assez ordinairement fort peu des bienséances de se donner en spectacle aux habitants de Corvol. Il fit donc comme s'il n'avait rien entendu et entra chez son ami le tabellion. « Je viens, lui dit-il, de rencontrer dans la rue deux espèces de homards empanachés qui m'ont insulté. Pouvez-vous me dire à quelle famille de crustacés appartiennent ces drôles? « Oh, diable! » fit le tabellion, quasi effrayé. « N'allez pas tourner de ce côté vos plaisanteries. L'un d'eux, M. de Pontcassé, est le plus dangereux duelliste de notre époque, et de tous ceux qui sont allés avec lui sur le pré, personne n'est encore revenu sain et sauf. « Oh, nous verrons bien, dit mon oncle. 2 heures ayant sonné au clocher du bourg, Il prit son ami le tabellion par le bras et il se rendit avec lui chez M. Minxit. La société était déjà réunie dans le salon et on n'attendait plus que pour se mettre à table. Les deux hobereaux, qui se croyaient avec ses manants comme dans un pays conquis, s'emparèrent de prime abord de la conversation. M. de Pontcassé ne cessait de friser ses moustaches, de parler de la cour, de ses duels et de ses prouesses amoureuses. Arabelle, qui n'avait jamais ouï chose si magnifique, prenait un grand plaisir à ses discours. Mon oncle s'en aperçut bien. Mais comme Mademoiselle Minxit lui était indifférente, cela ne le regardait, pensait-il, en aucune façon. Monsieur de Pontcassé, piqué du peu d'effet qu'il produisait sur Benjamin, lui adressa quelques allusions qui effleuraient l'insolence. Mais mon oncle, sûr de sa force, dédaignait d'y faire attention et ne s'occupait que de son verre et de son assiette. Monsieur Minxit se scandalisa de la voracité insoucieuse de son champion. Et tu comprends donc pas ce que veut dire Monsieur de Pontcassé? S'écria le bonhomme. À quoi penses-tu donc, Benjamin? Ben, dîner, monsieur Minxit. Et je vous conseille d'en faire autant, car c'est pour cela que vous nous avez invités, je pense. Monsieur de Pontcassé avait trop d'orgueil pour croire qu'on pût l'épargner. Il prit le silence de mon oncle pour un aveu de son infériorité, et il en vint à des attaques plus directes. Je vous ai entendu appeler deux rateries, dit-il à Benjamin. J'ai connu, on se dire j'ai vu, car on ne connaît pas de pareils gens, un raterie dans les palefreniers du roi. Est-ce par hasard votre parent? Mon oncle dressa les oreilles comme un cheval qui reçoit un coup de fouet. Monsieur le Pontcassé, répondit-il, les rateries ne sont jamais faits domestiques de course ou quelque livrée que ce fût. Les rateries ont l'âme fière, monsieur. Ils ne veulent manger que le pain qu'ils gagnent, et ce sont eux qui paient, avec quelques millions d'autres, les gages de cette valetaille de toutes couleurs, qu'on veut bien appeler courtisan. Il se fit un silence solennel dans l'assemblée, et chacun applaudissait mon oncle du regard. Monsieur Banksy, ajouta-t-il, un morceau, s'il vous plaît, de ce pâté. Il est excellent, et je parierais bien que le lièvre avec lequel on l'a fait n'était pas gentilhomme. Monsieur, dit l'ami de Monsieur de Pontcassé, prenant une attitude marquée, que voulez-vous dire avec votre lièvre? Eh bien, qu'un gentilhomme, répondit froidement mon oncle, ne serait pas bon dans un pâté, voilà tout ce que je voulais dire. Messieurs, dit Monsieur Minxit, il est bien entendu que vos discussions ne doivent pas dépasser les bornes de la plaisanterie. Entendu, dit Monsieur de Pontcassé, à la rigueur. Les allusions de Monsieur Rattray seraient bien de nature à offenser deux officiers du roi, qui n'ont pas l'honneur d'être comme lui de la roture. Cependant, à son habit rouge et à sa grande épée, j'avais pris d'abord pour un des nôtres. Je tressaille encore, comme l'homme qui a été sur le point de prendre un serpent pour une anguille, en songeant que j'ai failli fraterniser avec lui. Il n'y a que cette grande queue qui frétille sur ses épaules, qui m'a détrompé. Ah, monsieur de Pontcassé, s'écria monsieur Minxit, je ne souffrirai point. Laissez, mon bon monsieur Minxit, fit mon oncle. L'insolence est l'arme de ceux qui ne savent pas manier la flexible houssine de la plaisanterie. Pour moi, je n'ai aucune erreur à me reprocher à l'égard de monsieur de Pontcassé, car je n'ai pas encore fait attention à lui. Ah, le bonheur, fit monsieur Minxit. Le mousquetaire, qui se piquait d'être un mystificateur fort plaisant, et qui savait que dans les combats de l'esprit, comme dans ceux de l'épée, la fortune est journalière, ne se découragea pas pour cela. Monsieur Rattray, poursuivit-il, monsieur le chirurgien Rattray, savez-vous qu'entre nos deux professions, il y a plus d'analogie que vous ne le pensez? Je parierais mon cheval à jambes brûlées contre votre habit rouge. Vous avez tué plus de monde cette année que moi dans ma dernière campagne. Oh, vous gagneriez, monsieur de Pontcassé, répondit froidement mon oncle. Car cette année, oui, j'ai eu le malheur de perdre un malade. Il est mort hier du charbon. Bravo Benjamin, bravo le peuple, s'écria monsieur Manxit, ne pouvant plus contenir sa joie. Vous voyez, mon gentilhomme, que tous les gens d'esprit ne sont pas à la cour. Et vous en êtes plus que tout autre la preuve, monsieur Manxit, répondit le mousquetaire, déguisant la mortification de sa défaite sous un front serein. Pendant ce temps, tous les convives, excepté les deux gentilshommes, présentaient leur verre à Benjamin et entrechoquaient cordialement le sien. À la santé de Benjamin Ratry, le vengeur du peuple méconnu et insulté, s'écria monsieur Manxit. Le dîner se prolongea fort avant dans la soirée. Mon oncle remarqua bien que mademoiselle Manxit avait disparu quelque temps après monsieur de Pontcassé, mais il était trop préoccupé des applaudissements qu'on lui prodiguait pour faire attention à sa fiancée. Vers les 10 heures, il prit congé de monsieur Manxit. Celui-ci le reconduisit jusqu'au bout du village et lui fit promettre que le mariage aurait lieu dans la huitaine. Comme Benjamin se trouvait vis-à-vis du moulin de Trudy, il entendit un bruit de paroles qui venait à lui, et il crut distinguer la voix d'Arabelle et de son illustre adorateur. Benjamin, par égard pour mademoiselle Manxit, ne voulut pas la surprendre à cette heure dans la campagne avec un mousquetaire. Il se cacha sous les rameaux d'un gros noyer et attendit, pour continuer sa route, que les deux amants l'eussent dépassé. Il ne songeait nullement, sans doute, à dérober les petits secrets d'Arabelle, mais le vent les lui apportait, et il fallait bien, malgré lui, qu'il a reçu la confidence. Je sais, disait monsieur de Pontcassé, un moyen de le faire déguerpir, je lui enverrai un cartel.
Je le connais, répondait Arabelle, c'est un homme d'un orgueil intraitable, et fût-il sûr d'être tué sur place, il acceptera.
Ben, tant mieux, alors je vous en débarrasserai pour toujours.
Oui, mais d'abord, je ne veux pas être complice d'un meurtre. Ensuite, mon père aime cet homme plus que moi, peut-être, qui suis sa fille unique. Je ne consentirai jamais à ce que vous tuiez le meilleur ami de mon père.
Vous êtes charmante, Arabelle, avec vos scrupules. J'en ai tué plus d'un pour un mot qui sonnait mal à mon oreille. Et ce vilain, dont l'esprit est féroce, s'est cruellement vengé de moi. Je ne voudrais pas pour tout au monde qu'on sût à la cour ce qui s'est dit ce soir à la table de votre père. Cependant, pour ne pas vous contrarier, je me contenterai de l'estropier. Si par exemple je lui coupais le nerf tibio-rotulien, ce serait un vice rédhibitoire qui vous autoriserait suffisamment à ne plus vouloir de lui pour votre époux.
Mais vous-même, Hector, si vous succombiez, faisait mademoiselle Manxit de sa voix la plus tendre.
Moi, qui ai mis à l'ombre les plus fins tireurs de l'armée, le brave Bellerive, le terrible des Rivières, le redoutable Châteaufort, je succomberai par la rapière d'un chirurgien. Mais vous m'insultez, belle Arabelle, quand vous émettez un pareil doute. Vous ne savez donc pas que je suis sûr de mes coups d'épée, comme vous de vos coups d'aiguille. Désignez vous-même l'endroit où vous voulez qu'il soit frappé. Je serai enchanté de vous faire cette galanterie. Les voix s'éloignèrent. Mon oncle sortit de sa cachette et se remit tranquillement en route pour Clamecy, devisant en lui-même sur le parti qu'il avait à prendre. Chapitre 18. Ce que dit mon oncle en lui-même sur le duel. Monsieur de Pontcassé veut m'estropier. Il l'a promis à mademoiselle Manxit, et après le mousquetaire n'est pas homme à manquer à sa parole. Voyons un peu, que vais-je faire dans cette circonstance? Dois-je me laisser tuer par monsieur de Pontcassé avec la docilité d'un caniche qu'explore le scalpel ou déclinerai-je l'honneur qu'il daigne me faire? Il entre dans l'intérêt de monsieur de Pontcassé que j'aille sur des béquilles, soit, mais je vois pas bien, moi, pourquoi je lui ferais ce plaisir. Je tiens très peu à mademoiselle Manxit, bien qu'elle soit parée d'une dot de 100 000 francs. Mais je tiens beaucoup à la régularité de ma personne et je suis, heureusement flatté, assez joli garçon pour qu'on ne trouve pas cette prétention ridicule. Il faut, dites-vous, qu'un homme provoqué en duel se batte. Mais, s'il vous plaît, où cela se trouve-t-il?
Est-ce dans les pandectes, dans les capitulaires de Charlemagne, dans les commandements de Dieu ou dans ceux de l'Église? Mais d'abord, monsieur de Pontcassé, entre vous et moi, la partie est-elle bien égale? Vous êtes mousquetaire et je suis médecin. Vous êtes un artiste en fait d'esquive, mais moi je ne sais guère manier que le bistouri et la lancette. Vous ne vous faites pas plus de scrupules à ce qu'il paraît de supprimer un membre à un homme que d'arracher une aile à une mouche. Et moi j'ai horreur du sang, surtout du sang artériel. Accepter votre cartel ne serait-ce pas aussi ridicule de ma part que si je consentais à courir sur la corde tendue d'après la provocation d'un funambule ou à traverser un bras de mer sur le défi d'un professeur de natation. Et quand bien même les chances seraient égales entre nous, quand on conclut un traité, il faut qu'on espère y gagner quelque chose. Or, si je vous tue, qui gagnerais-je? Et si je suis tué par vous, qui gagnerais-je encore? Vous le voyez donc bien, dans les deux cas, je ferai un marché de dupes. Oh, il faut, répétez-vous, que tout homme provoqué hors duel se batte. Quoi? Si un meurtrier de grand chemin m'arrêtait à la corne d'un bois, je ne me ferais aucun scrupule de lui échapper à l'aide de mes bonnes mangles. Et quand c'est un meurtrier de salon qui me met un cartel sous la gorge, je me croirais obligé d'aller me jeter sur la pointe de son épée. À votre compte, quand un individu que vous ne connaissez que pour lui avoir, par mégarde, marché sur le pied, vous écrit: Monsieur, trouvez-vous à telle heure, à tel endroit, afin que j'aie la satisfaction de vous égorger en réparation de l'insulte que vous m'avez faite. Il faut qu'on se rende aux ordres du quidam et qu'on prenne bien garde encore de le faire attendre. Chose étrange. Il y a des hommes qui ne risqueraient pas 1 000 francs pour sauver l'honneur à leur ami, la vie à leur père, et qui risquent leur vie dans un duel pour une parole équivoque ou pour un regard de travers. Mais alors, qu'est-ce donc que la vie? Ce n'est donc plus un bien sur lequel tous les autres sont fort peu de choses. C'est donc un haillon qu'on jette au chiffonnier qui passe, ou une pièce de monnaie effacée qu'on abandonne au premier aveugle qui vient chanter sous votre fenêtre. J'exige que je joue ma vie à l'épée contre celle de monsieur de Pontcassé. Et si je jouais 100 francs avec lui à l'Impérial ou à la Triomphe, je serais un homme perdu de réputation. Le moindre savetier d'entre eux ne voudrait pas de moi pour gendre. Alors il faut donc, selon eux, que je sois plus prodigue de ma vie que de mon argent. Et moi qui me pique d'être philosophe, je réglerai ma conscience sur l'opinion de tels casuistes. Au fait, qu'est-ce donc que ce public qui s'établit juge de nos actions? Des épiciers qui vendent à faux poids, des drapiers qui ônent mal, des tailleurs qui habillent leurs marmots aux dépens de leurs pratiques, des rentiers qui font l'usure, des mères de famille qui ont des amants, et en somme un tas de grillons et de cigales qui ne savent ce qu'ils chantent, des niais qui disent oui et non sans savoir pourquoi, un aréopage d'imbéciles qui n'est pas capable de motiver ses conclusions. Oh, il serait beau, ma foi, que moi, qui suis médecin, je m'avisasse, parce que ces badauds croient que Saint-Hubert guérit de la rage, d'envoyer un hydrophobe dans les Ardennes s'agenouiller devant la châsse de ce grand saint. Choisissez du reste ce qu'ils se décorent du nom de sagesse, et vous verrez comme ils sont conséquents avec eux-mêmes. Leurs philosophes jettent les hauts cris lorsqu'on leur parle de ces pauvres femmes du Malabar, qui se jettent toutes vives et toutes parées sur le bûcher de leur époux. Et quand deux hommes se coupent la gorge pour un fétu, ils leur décernent une couronne d'intrépidité. Vous dites que je suis un lâche quand j'ai le bon sens de refuser un cartel. Mais selon vous, la lâcheté, qu'est-ce donc? Si la lâcheté consiste à reculer devant un danger inutile, où trouverez-vous un homme courageux? Qui de vous, quand son toit craque et flamboie au-dessus de sa tête, reste à rêver tranquillement dans son lit? Qui, lorsqu'il est sérieusement malade, n'appelle le médecin à son secours? Qui, enfin, lorsqu'il tombe dans un fleuve, ne cherche à s'accrocher aux arbustes du rivage? Mais encore une fois, ce public, qu'est-il? Un lâche qui prêche la témérité. Supposons qu'au lieu de moi, Benjamin Ratery, ce soit lui, le public, que M. de Pontcassé provoque en duel. Combien y en aura-t-il parmi cette foule qui oseront accepter son défi? Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a pour le philosophe d'autres publics que les hommes qui pensent et qui raisonnent? Or, aux yeux de ces gens-là, le duel n'est-il pas le plus absurde comme le plus barbare des préjugés? Que prouve cette logique qu'on n'a pas dans une salle d'armes? Un coup d'épée bien appliqué, n'est-ce pas là un magnifique argument? Paré, tierce, paré, carte, vous pouvez maintenant démontrer tout ce que vous voudrez. C'est bien dommage, ma foi, quand le pape excommuniait comme hérétique le mouvement de la terre autour du soleil, que Galilée n'ait pas songé à appeler sa sainteté en duel pour lui prouver que ce mouvement existait. Au Moyen-Âge, le duel avait au moins un motif, il était la conséquence d'une idée religieuse. Nos grands-parents croyaient Dieu trop juste pour laisser l'innocent tomber sous les coups du coupable, et l'issue du combat était regardée comme un arrêt d'en haut. Mais chez nous, qui sommes, grâce au ciel, bien revenus de ces folles idées, et qui ne croyons à la justice temporelle de Dieu que sous bénéfice d'inventaire, mais comment le duel peut-il se justifier, et à quoi sert-il? Vous craignez qu'on vous accuse de manquer de courage si vous refusez un cartel. Mais ces malheureux qui font le métier d'égorgeurs, et qui vous défient parce qu'ils se croient sûrs de vous tuer, quel croyez-vous donc que soit leur courage? Celui du boucher qui égorge un mouton, qui a les pattes liées. Celui du chasseur qui tire sans pitié sur un lièvre en forme ou sur l'oiseau qui chante sur son arbre. J'ai connu, moi, de ces gens-là qui n'avaient pas seulement la fermeté de se faire arracher une dent. Et dans le nombre, combien y en a-t-il qui oseraient obéir à leur conscience, contrairement à la volonté de l'homme dont ils dépendent? Que le cannibale des îles du Nouveau Monde égorge des hommes de sa couleur pour les faire rôtir et les manger quand ils seront cuits à point. Je conçois cela. Mais toi, duelliste, cet homme que tu provoques quand tu l'auras tué, à quelle sauce mangeras-tu son cadavre? Tu es plus coupable que l'assassin que la justice condamne à mourir sur l'échafaud. Lui, du moins, c'est la misère qui le pousse au meurtre. C'est peut-être un sentiment louable dans sa cause, bien que déplorable dans ses conséquences. Et toi, cependant, qu'est-ce donc qui t'a mis l'épée à la main? Est-ce la vanité, est-ce l'appétit du sang, ou bien la curiosité de voir comment un homme se tord dans les convulsions de l'agonie? Te représentes-tu une femme se jetant à moitié folle de douleur sur le corps de son époux, des enfants remplissant la maison veuve étendue de noir de leurs lamentations? Une mère qui demande à Dieu de la recevoir à la place de son fils dans son cercueil? Et c'est toi qui, pour un amour propre de tigre, as fait toutes ces misères. Tu veux égorger si nous ne te donnons pas le titre d'homme, d'honneur. Mais tu n'es pas indigne du nom d'homme. Tu n'es qu'une vipère qui mord pour le plaisir de tuer sans profiter du mal qu'elle a fait. Et encore, la vipère se respecte elle-même dans ses semblables. Quand ton adversaire est tombé, tu t'agenouilles dans la boue détrempée par son sang. Tu cherches à étancher les blessures que tu as faites. Tu le secours comme si tu étais son meilleur ami. Mais alors, pourquoi le tuais-tu donc, misérable? La société a bien affaire maintenant de tes remords. Sont-ce tes larmes qui remplaceront le sang que tu as fait couler? Toi, assassin à la mode, toi, meurtrier comme il faut, tu trouves des hommes qui te pressent la main, des mères de famille qui t'invitent à leur fête. Et ces femmes qui s'évanouissent à l'aspect du bourreau osent presser leurs lèvres sur les tiennes et te laissent dormir la tête sur leur sein. Mais ces hommes et ces femmes, ils ne jugent des choses que par leur nom. L'homicide qui s'appelle assassinat, ils en ont horreur, et celui qui s'appelle duel, ils l'applaudissent. Toutefois, ces applaudissements dont on t'environne, combien de temps as-tu pu en jouir? Là-haut, à côté de ton nom, est écrit homicide. Tu as sur le front une tache de sang caillé que les baisers de tes maîtresses n'effaceront point. Tu n'as point trouvé de juge sur la terre, mais il est au ciel un juge qui t'attend et qui ne se laissera pas prendre à tes grands mots d'honneur. Quant à moi, je suis médecin, non pour tuer, mais pour guérir. Entendez-vous, monsieur le Pontcassé? Si vous avez du sang dans les veines, c'est avec la pointe de ma lancette seule que je puis vous en débarrasser. Ainsi raisonnait mon oncle en lui-même. Nous verrons bientôt comment il mit sa doctrine en pratique. La nuit ne donne pas toujours de bons conseils. Mon oncle se leva le lendemain, bien décidé à ne point s'aplatir devant les provocations de M. de Pontcassé, et pour en avoir plutôt fini avec son aventure, ce jour-là même, il partit pour Corvol. Soit qu'il fût à jeun, soit que la transpiration se fît mal, soit que la digestion de la veille ne se fût pas bien accomplie, il se sentait infiltré malgré lui une mélancolie inusitée. Il suivait, tout pensif comme l'Hippolyte de Racine, les pentes étagées de la montagne de Beaumont, sa noble épée qui tombait autrefois avec une perpendiculaire rigoureuse, le son de son fémur, et menaçait la terre de sa pointe, affectant maintenant l'attitude triviale d'une broche, semblait se conformer à sa triste pensée. Son tricorne, qui se tenait auparavant fier et debout sur son front, légèrement incliné, était alors assis, tout penaud, sur sa nuque, et semblait lui-même préoccupé de sinistres idées. Son œil de pierre s'était amolli. Il contemplait avec une sorte d'attendrissement la vallée de Beuvron, qui s'étendait raide et grelottante à ses pieds. Ses grands noyers en deuil, qui ressemblaient, avec leur noir branchage, à un vaste polype, les longs peupliers, qui n'avaient plus que quelques feuilles rousses à leur panache, et à la cime desquels se balançaient quelquefois de lourdes grappes de corbeaux. Ce taillis fauve, tout rissolé par la gelée, cette rivière qui s'en allait toute noire entre ses rives de neige vers les pelles du Foulon, le donjon de la postaillerie, grisâtre et vaporeux comme une colonne de nuages, le vieux donjon féodal de Pressure, tapi entre les roseaux bruns de ses fossés, et qui semblait avoir la fièvre, les cheminées du village qui jetaient ensemble leur fumée légère et chétive comme l'haleine d'un homme qui souffle entre ses doigts. Le tic-tac du moulin, cet ami avec lequel il avait conversé si souvent lorsqu'il revenait de Corvol par les beaux clairs de lune de l'automne, était plein de notes sinistres. Il semblait dire dans son langage saccadé: porteur de rapière, tu vas au cimetière. À quoi mon oncle répondait: tic-tac indiscret, je vais où il me plaît. Si c'est au trépas, ça ne te regarde pas. Le temps du reste était sombre et malade. De gros nuages blancs, poussés par la bise, se traînaient pesamment dans les cieux comme un cygne blessé. La neige, dépolie par un jour grisâtre, était terne et blafarde. Et l'horizon était fermé de toutes parts par une ceinture de brouillard qui se traînait le long des montagnes. Il semblait à mon oncle qu'il ne reverrait plus, éclairé par le joyeux soleil du printemps et paré de ses festons de verdure, ce paysage sur lequel l'hiver étendait maintenant un voile si épais de tristesse. M. Binxit était absent lorsque mon oncle arriva à Corvol. Il entra dans le salon. M. de Pontcassé était installé à côté d'Arabelle sur un sofa. Benjamin, sans faire attention à la moue de sa fiancée et aux airs provocateurs du mousquetaire, se jeta dans un fauteuil, se croisa les jambes et posa son chapeau sur une chaise comme un homme qui n'est pas pressé de partir. Lorsqu'on eut parlé quelque temps de la santé de M. Minxit, des probabilités du dégel et de la grippe, Arabelle garda le silence, et mon oncle n'en sut plus tirer que quelques monosyllabes aigres et criards,
comme les notes qu'un apprenti musicien arrache à grand-peine et d'intervalle en intervalle de sa clarinette. Monsieur de Boncassé se promenait dans le salon, frisant ses moustaches et faisant résonner ses grands éperons sur le parquet. Il semblait étudier en lui-même de quelle façon il s'y prendrait pour chercher querelle à mon oncle. Benjamin avait deviné ses intentions, mais il eut l'air de ne pas faire attention à lui et s'empara d'un livre qui traînait sur un canapé. D'abord, il se contenta de le feuilleter, observant M. de Pontcassé du coin de l'œil, mais comme c'était un ouvrage de médecine, il se laissa bientôt absorber par l'intérêt de sa lecture et oublia le mousquetaire. Celui-ci était décidé à en finir. Il s'arrêta devant mon oncle et le regardant de bas en haut. « Savez-vous, monsieur, lui dit-il, que vos visites de séance sont bien longues ?»« Ben, il me semble pourtant, répondit mon oncle, que vous étiez ici avant moi. » « Et en même temps bien fréquente, » ajouta le mousquetaire. « Oh, je vous assure, monsieur, répliqua mon oncle, qu'elle le serait beaucoup moins si je croyais devoir toujours vous y rencontrer. « Mais si c'est pour mademoiselle Binxit que vous venez ici, » poursuivit le mousquetaire, « elle vous prie par ma bouche de la débarrasser de votre longue personne. « Oh, si mademoiselle Binxit, qui n'est pas mousquetaire, avait des ordres à me donner, » elle le ferait d'une manière plus polie. En tout cas, monsieur, vous trouverez bon que j'attende pour me retirer, qu'elle se doit d'expliquer elle-même et que j'ai eu à ce sujet un entretien avec monsieur Minxit. Et mon oncle continua son chapitre. L'officier fit encore quelques tours dans le salon et se plaça de nouveau en face de mon oncle. « Je vous prie, monsieur, lui dit-il, d'interrompre un moment le cours de votre lecture. J'aurais un mot à vous dire. « Oh, puisque ce n'est qu'un mot, » dit mon oncle, faisant un pli à la feuille qu'il lisait, « je puis bien perdre un moment à vous entendre. » Monsieur de Pontcassé était exaspéré du sang-froid de Benjamin. « Mais je vous déclare, lui dit-il, monsieur Rattray, que si vous le sortez à l'instant même par cette porte, je vais vous faire sortir moi par cette fenêtre. « Vraiment ? » fit mon oncle. « Eh bien, moi, monsieur, je serai plus poli que vous. Je vais vous faire sortir par cette porte. » Et prenant l'officier par le milieu du corps, il le porta sur le palier et ferma derrière lui la porte à double tour. Comme mademoiselle Minxy tremblait. « Oh, ne vous effrayez pas trop de moi, » dit mon oncle. L'acte de violence que je me suis permis envers cet homme était surabondamment justifié par une longue série d'insultes. « Et d'ailleurs, » ajouta-t-il avec amertume, « oh, je ne vous embarrasserai pas longtemps de ma longue personne. Je ne suis pas de ces épousards de dot qui prennent une jeune femme au bras de celui qu'elle aime et l'attachent brutalement au pied de leur lit. Toute jeune fille a reçu du ciel son trésor d'amour. Il est juste qu'elle choisisse l'homme avec lequel il lui plaît de le dépenser. Nul n'a le droit d'épancher sur le chemin et de fouler sous ses pieds les blanches perles de sa jeunesse. À Dieu ne plaise qu'un vil appétit d'argent me fasse commettre une mauvaise action. Oh, jusqu'ici, j'ai vécu pauvre. Je sais les joies de la pauvreté, j'ignore les misères de la richesse. En échangeant ma folle et rieuse indigence contre une opulence maussade et hargneuse, peut-être ferai-je un mauvais marché. En tout cas, je ne voudrais pas que cette opulence m'arriva avec une femme qui me détesterait. Je vous prie donc de me dire, dans toute la sincérité de votre âme, si vous aimez monsieur de Pontcassé, j'ai besoin de votre réponse pour régler ma conduite envers vous et envers votre père. » Mademoiselle Minxit fut émue du ton de loyauté qu'avait mis Benjamin dans ses paroles. « Si je vous avais connu avant monsieur de Pontcassé, c'est peut-être vous que j'aimerais maintenant. » « Mademoiselle, interrompit mon oncle, ce n'est pas de la politesse, mais de la sincérité que je vous demande. Déclarez-moi franchement si vous croyez être plus heureuse avec M. de Pontcassé qu'avec moi. »« Que vous dirais-je, M. Rattray, répondit Arabelle. « Une femme n'est pas toujours heureuse avec celui qu'elle aime, mais elle est toujours malheureuse avec celui qu'elle n'aime pas. »« Je vous remercie, mademoiselle. » Je sais à cette heure ce que j'ai à faire. Maintenant, voulez-vous me faire servir à déjeuner? L'estomac est un égoïste, il ne compatit guère aux tribulations du cœur. Mon oncle déjeuna, comme déjeunait probablement Alexandre ou César la veille d'une bataille. Il ne voulut pas attendre le retour de M. Minxit. Il ne se sentit pas le courage d'affronter sa mine désolée lorsqu'il apprendrait que lui, Benjamin, qu'il traitait presque en fils, renonçait à devenir son gendre. Il aimait mieux l'informer par une lettre de son héroïque détermination. À quelque distance du bourg, il aperçut l'ami de M. de Pontcassé qui se promenait majestueusement de long en large sur le chemin. Le mousquetaire s'avança à sa rencontre et lui dit « Vous faites attendre bien longtemps, monsieur, ceux qui ont une réparation à vous demander. » « Bon, c'est que je déjeunais, » répondit mon oncle. « J'ai à vous remettre de la part de M. de Pontcassé une lettre dont il m'a chargé de lui apporter la réponse. Voyons donc ce que Marx est estimable gentilhomme. Monsieur, vu l'énormité de l'outrage que vous m'avez fait... Quel outrage ! Je l'ai porté du salon sur un escalier. Je voudrais bien qu'on m'outrageât ainsi jusqu'à Clamecy. Je consens à croiser le fer avec vous. Oh, la grande dame ! Quoi ! Il daigne m'accorder la faveur d'être estropié par lui. Mais voilà de la générosité où je ne m'y connais pas. J'espère que vous vous rendrez digne de l'honneur que je vous fais en l'acceptant. Mais comment donc ? Mais ce serait de ma part une noire ingratitude si je refusais. Vous pouvez dire à votre ami que s'il me met à l'ombre comme le brave des rivières, l'intrépide Belleville, etc., etc., je veux qu'on écrive sur ma tombe en lettres d'or « Si j'y Benjamin Rattray, tué en duel par un gentilhomme. » Post-scriptum, tiens, le billet de votre ami a un post-scriptum. Je vous attendrai demain à 10 heures du matin au lieu dit la chaume des Fertiaux. Au lieu dit la chaume des Fertiaux, parole d'honneur, un huissier ne libellerait pas mieux. Mais c'est que la chaume des Fertiaux est à une bonne lieue de Paxi. Et moi qui n'ai pas d'alzan brûlé, j'ai pas le temps de faire tant de chemin pour me battre. Si votre ami Denier se rendre au lieu dit la croix des Michelins, ce serait moi qui aurais l'honneur de l'y attendre. Et où se trouve cette croix des Michelins? Oh, sur le chemin de Corvol, au sommet du faubourg de Meuvron. Il faudrait que votre ami fût bien pessimiste pour qu'il n'agréât pas ce lieu. De cette place, il jouit d'un panorama digne d'une majesté. Devant lui, il verra les monts de Sambert avec leurs terrasses chargées de vignes et leurs grands crânes chauves portant à leur nuque la forêt de Frasse. Dans une autre saison, le coup d'œil serait plus beau, mais je le puis d'un souffle faire renaître le printemps. À leurs pieds, la ville, avec ses billes panaches de fumée qui ondoient, se presse entre ces deux rivières et grimpe les pentes arides du Propinçon, comme un homme qu'on poursuit. Si votre ami a quelque talent pour le dessin, il pourra enrichir son album de ce point de vue. Entre ces grands pignons, semblables avec leur mousse sombre, à des pièces de velours cramoisi, se dresse la tour de Saint-Martin, vêtue de son dôme de dentelle et parée de ses bijoux de pierre. Mais cette tour vaut à elle seule une cathédrale. À côté, c'est en la vieille basilique qui jette à droite et à gauche, avec une admirable hardiesse et grands contreforts taillés en arche. Votre ami ne pourra s'empêcher de la comparer à une gigantesque araignée se reposant sur ses longues pattes. Vers le midi courent comme une traînée de sombres nuages les montagnes bleuâtres du Morvan, puis... Trêve de plaisanterie, s'il vous plaît. Je ne suis pas ici pour que vous m'en montriez la lanterne magique. À demain donc à la Croix des Michelins. À demain. À l'instant, l'affaire est pas si pressée qu'elle ne puisse se remettre. Demain, je vais à Dornecy goûter d'une feuillette d'un vin vieux que Page se propose d'acheter. Il s'en rapporte à moi pour la qualité et pour le prix. Et vous sentez que je ne peux, pour les beaux yeux de votre ami, manquer au devoir que l'amitié m'impose. Après-demain, je déjeune en ville. Dès sabbat, je puis donner le pas à un duel sur un déjeuner. Jeudi, je fais la ponction à un hydropique. Et comme votre avis veut m'estropier plus tard, il me serait plus possible de faire l'opération. Et le docteur nous la ferait mal. Pour vendredi. Oui, c'est un jour maigre. Je ne crois point avoir d'engagement pour ce jour-là. Je ne vois rien qui m'empêche de faire la partie de votre ami. Il faut bien en passer par ce que vous exigez. Du moins, me ferez-vous la faveur de vous faire accompagner par un second afin de m'épargner l'ennui du rôle de spectateur. Pourquoi non? Je sais que vous êtes une paire d'amis, vous et monsieur le Pontcassé. Je serais fâché de vous dépareiller. J'amènerai mon barbier, s'il a le temps, et si cela vous arrange. Insolent, fit le mousquetaire. Oh, ce barbier, répondit mon oncle, n'est pas un homme à mépriser. Il a une rapière assez longue pour mettre quatre mousquetaires à la broche. Et d'ailleurs, si vous me préférez à lui, oh, je tiendrai volontiers sa place. Je prends acte de vos paroles, dit le mousquetaire, et il s'éloigna. Mon oncle, aussitôt qu'il fut levé, alla quérir l'encrier de Machecourt. Il se mit à composer, avec son plus beau style et sa bâtarde la plus nette, une magnifique épître à M. Minxit, dans laquelle il lui déduisait comme quoi il ne pouvait plus devenir son gendre. Mon grand-père, qui avait eu l'avantage de la lire, m'a affirmé qu'elle eût fait pleurer un garde-chiourme. Si le point d'exclamation n'eût pas existé alors, mon oncle l'eût certainement inventé. Il y avait à peine un quart d'heure que la lettre était à la poste, lorsque M. Minxit en personne arriva chez ma grand-mère, accompagné du sergent, lequel était accompagné lui-même de deux masques, de deux fleurets et de son respectable caniche. Benjamin déjeunait alors avec Machecourt d'un hareng et d'un vin blanc patrimonial de Chouleau. Soyez le bienvenu, monsieur Minxit, s'écria Benjamin. Un morceau de ce poisson de mer vous agréerait-il? Mais fi donc, me prends-tu pour un batteur en grange? Et vous, sergent? Oh, moi, j'ai renoncé à ces sortes de choses depuis que j'ai l'honneur d'être dans la musique. Mais votre caniche, que penserait-il de cette fête? Oh, je vous remercie pour lui. Mais je crois qu'il a peu de goût pour le poisson de mer. Bon, oui, vrai, oui, qu'un hareng ne vaut pas un brochet au bleu. Et une étuvée de carpe, donc, surtout quand elle est au vin de Bourgogne, interrompit M. Minxit. Sans doute, dit Benjamin, mais vous pourriez même parler d'un civet de lièvre préparé de votre main. Mais toujours est-il que le hareng est excellent quand on n'a pas autre chose. Ah, à propos, il y a un quart d'heure que j'ai mis pour vous une lettre à la poste. Vous ne l'avez probablement pas reçu, monsieur Minxit. Non, dit monsieur Minxit, mais je vais t'en apporter la réponse. Tu prétends qu'Arabelle ne t'aime pas, et à cause de cela, tu ne veux pas l'épouser. Monsieur Atri a raison, dit le sergent. Moi, j'avais un camarade de lit qui ne m'aimait pas, et auquel je rendais bien cordialement l'appareil. Notre ménage était un véritable salle de police. Au logement, quand l'un voulait des navets dans la soupe, l'autre y mettait des carottes. À la cantine, si je demandais du cassis, il venait venir de Vegièvre. Oh, nous nous disputions pour savoir qui mettrait son fusil à la meilleure place. S'il avait un coup de pied à donner, c'était à mon caniche, et lorsqu'il était mordu par une puce, c'était toujours de ce pauvre Azor qu'elle provenait. Imaginez-vous qu'un jour, nous nous sommes battus au clair de la lune, parce qu'il prétendait coucher à la droite et que moi je prétendais qu'il devait prendre la gauche. Eh bien, pour me débarrasser de lui, j'étais obligé de l'envoyer à l'hôpital. Vous avez très bien fait, sergent, dit mon oncle. Quand les sergents ne savent pas vivre ici-bas, on les envoie à perpétuité dans l'autre monde. Eh, il y a bien quelque chose de bon dans ce que vient de dire le sergent, fit M. Minxit. Être aimé. C'est plus qu'être riche, car c'est être heureux. Aussi, je ne désapprouve pas tes scrupules, mon cher Benjamin.
Tout ce que je réclame de toi, c'est que tu continues comme par le passé à venir à Corvol. Parce que tu ne veux pas être mon gendre, c'est pas une raison pour que tu cesses d'être mon ami. Tu seras plus obligé de filer le parfait amour avec Aramel, de tirer de l'eau pour arroser ses fleurs, de t'extasier sur les manchettes qu'elle me brode et sur la supériorité de ses fromages à la crème. Nous déjeunerons, nous dînerons, nous philosopherons, nous rirons. C'est un passe-temps qui en vaut bien un autre. Tu aimes les truffes, j'en parfumerai tout mon office. Tu as une prédiction pour le Volnay, prédilection que dirais-je, je ne partage pas, mais j'en aurai toujours dans ma cave. Si tu prends envie de chasser, je t'achèterai un fusil à deux coups et une paire de lévriers. Oh, je ne te donne pas 3 mois, Irabel, pour se dégoûter de son gentilhomme et pour t'aimer à la folie. Acceptes-tu ou n'acceptes-tu pas? Allez, réponds-moi par oui ou par non. Tu sais bien que je n'aime point les d'horreurs de phrases. Eh bien oui, monsieur Banksit, fit mon oncle. Très bien, je n'attendais pas moins de ton amitié. Et maintenant, tu te barres de elle? Mais qui diable a pu vous dire cela? S'écria mon oncle. Je sais que les urines n'ont rien de caché pour vous. Est-ce que vous auriez à mon insu consulté mes urines? Mais tu te bats avec monsieur de Pontcassé, mauvais plaisant. Vous devez vous rencontrer dans 3 jours à la Croix des Michelin. Et au cas où tu ne me débarrasserais de monsieur de Pontcassé, l'autre mousquetaire prendra sa place. Tu vois bien que je suis bien informé. Comment, Benjamin? S'écria Machecour, devenu plus pâle que son assiette. Comment, misérable? S'écria ma grand-mère. Tu te barres de elle? Écoutez-moi, toi, Machecour, vous, ma chère sœur, et vous aussi, monsieur Banksit. La vérité est que je me bats avec monsieur de Pontcassé. Ma résolution est bien arrêtée. Ainsi, épargnez-vous des représentations qui m'ennuieraient, sans me faire renoncer à mon dessein. Mais je ne viens pas, répondit monsieur Banksit, mettre des obstacles à ton duel. Je vais au contraire t'apporter un moyen d'en sortir victorieusement, et de plus de rendre ton nom célèbre dans toute la contrée. Le sergent, c'est un coup superbe avec lequel il désarmerait dans 1 heure toute la corporation des maîtres d'armes. Aussitôt qu'il aura bu un verre de vin blanc, il te donnera la première leçon. Je te laisse avec toi jusqu'à vendredi. Et moi-même, je resterai à te surveiller de peur que tu ne perdes ton temps dans les auberges. Mais, dit mon oncle, venez que faire de votre coup. Et d'ailleurs, si votre coup est infaillible, quelle gloire aurais-je de triompher par ce moyen de votre vicomte? Homère, en rendant Achille invulnérable, lui a ôté tout le mérite de sa vaillance. Je réfléchis. Oh, mon intention n'est plus de me battre à l'épée.
Quoi? Tu voudrais te battre au pistolet, imbécile?
Oh, si c'était avec M. Artus, qui est large comme une armoire, à la bonne heure. Mais je ne me bats ni au pistolet ni à l'épée. Je veux servir à ces spadassins un duel de mon métier. Je vous garde le plaisir de la surprise. Vous verrez, monsieur Banksit. À la bonne heure, répondit celui-ci, mais apprends toujours mon coup. C'est une arme qui ne t'embarrassera pas, et on ne sait de quoi on peut avoir besoin. La chambre de mon oncle était au premier étage, au-dessus de celle occupée par monsieur Machecour. Après déjeuner, donc, il s'enferma dans sa chambre avec le sergent et M. Banksit pour commencer son cours d'escrime. Mais la leçon ne fut pas de longue durée. Au premier appel que fit Benjamin, le plancher vermoulu de Machecour se creva sous ses pieds et il passa au travers jusqu'aux aisselles. Le sergent, ébahi de la subite disparition de son élève, resta le bras gauche moelleusement arrondi à la hauteur de l'oreille et le bras droit tendu dans l'attitude d'un homme qui va porter une botte. Et pour M. Banksit, il fut pris d'une telle envie de rire qu'il faillit en suffoquer. « Mais où est Ratterie ? » s'écria-t-il. « Mais qu'est devenu Ratterie ? Sergent, qu'avez-vous fait de Ratterie ?
Ben, je vois bien la tête de monsieur Rattray, répondit le sergent, mais du diable si je sais où sont ses jambes. Gaspard était seul alors dans la chambre de son père. D'abord, il fut un peu étonné de la brusque arrivée des jambes de son oncle, que certes il n'attendait pas. Mais bientôt sa surprise se chargea en fous éclats de rire qui se mêlèrent à ceux de M. Minxit. « Ohé, Gaspard !» s'écria Benjamin qui l'entendait. « Ohé, mon cher oncle !» répondit Gaspard. « Traîne jusqu'ici le fauteuil de cuir de ton père et mets-le sous mes pieds. Je t'en prie, Gaspard !»«
Mais je n'ai pas le droit, » répliqua le drôle. « Ma mère a défendu qu'on monte dessus. »
« Ne veux-tu bien m'apporter ce fauteuil, maudit porte-croix ?»«
Ben, ôtez vos souliers, je vous l'apporterai. »«
Mais comment veux-tu que j'ôte mes souliers ? Mes pieds sont au rez-de-chaussée, mes mains au premier étage. »«
Eh bien, donnez-moi une pièce de 24 sous pour me payer de ma peine. »«
Je t'en donnerai une de 30, mon bon Gaspard, mais de suite le fauteuil, je t'en prie. Mes bras ne tiennent plus à mes épaules. »
« Au crédit est mort, » fit Gaspard. « Donnez-moi les 30 sous de suite, sinon point de fauteuil. »
Heureusement, Machecourt arrivait dans ce moment. Il donna de son pied au derrière de Gaspard et mit fin à la suspension de son beau-frère. Benjamin alla achever sa leçon d'escrime chez Page et il ferrailla si bien qu'au bout de 2 heures, il était aussi habile que son maître.